L'actualité des Alpes du Sud, meurtre au quartier des Cèdres à Gap, l'auteur présumé incarcéré dans un établissement adapté.
L'homme de 65 ans est en effet en fauteuil roulant. Il est mis en examen pour assassinat par le pôle criminel de Grenoble, la préméditation ayant été retenue.
Les bracelets anti-rapprochement, véritable réponse pénale aux violences intrafamiliales et conjugales.
Ils continuent de se déployer dans les Hautes-Alpes. Il s'agit de protéger la victime et prévenir un nouveau passage à l'acte, considère le procureur Florent Crouy, grâce à un système de géolocalisation. Si le mis en cause entre dans la zone d'alerte, ce sont deux patrouilles policières qui sont dépêchées sur place.
Conflit au sein de l'hôpital de Gap, retour aux origines.
C'est un véritable château de cartes alors que les démissions de médecins et soignants se succèdent. C'est toute l'offre de soins dans les Hautes-Alpes et dans le Sisteronais qui se voit impactée. Comment le retour d'un praticien a-t-il pu enclencher une telle crise ? Nous nous sommes procuré le rapport de l'ARS de 2019.
Et puis la douloureuse qui arrive dans votre boîte aux lettres ou dans votre boîte mail.
Car la déclaration d'impôt sur le revenu, c'est maintenant et notamment en ligne. Dans les Alpes de Provence, on propose de vous épauler sur Internet avec un ami. Comprenez, un assistant de la messagerie des impôts. Et puis, si vous êtes un pro des ventes sur Le Bon Coin ou des locations sur Airbnb, attention, c'est désormais fiscalisé.
Et puis un mot de sport et le retour de Sébastien Roy dans les rangs des Rapaces de Gap.
Speedy revient après 5 ans à Grenoble. Il sera joueur et assistant du coach météo.
Eh bien c'est maussade et frais avec quelques faibles précipitations sur nos deux départements et des températures un peu fraîches. 8 à 11 degrés sur les Hautes-Alpes, comptez 9 à 12 sur les Alpes de Haute-Provence. À la une de l'actualité, l'auteur présumé du meurtre samedi, quartier des Cèdres à Gap, est en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire adapté à ses difficultés physiques et psychiques.
Cet homme de 65 ans, en fauteuil roulant, aurait ouvert le feu par deux fois sur son voisin pour une question de place de parking pour personnes handicapées. La victime, âgée de 66 ans, est décédée quelques minutes après avoir été touchée en pleine poitrine. Et comme nous vous l'avions précédemment indiqué, le parquet de Gap s'est dessaisi au profit du pôle criminel de Grenoble. Ainsi, le procureur isérois Éric Vaillant indique que le mis en cause est en examen pour assassinat, la préméditation du geste mortel ayant été retenue. Il aurait en effet attendu le retour de son voisin armé de son fusil de chasse calibre 12. Du côté de Montgardin, Jean-Marc Aurouz est toujours conseiller municipal de la commune. L'ancien maire est impliqué dans une affaire de viol et agression sexuelle sur des fillettes et adolescentes de sa commune. S'il a démissionné de son mandat d'édile, ce n'est pas le cas pour autant de sa fonction de conseiller. Un nouveau maire a été dans la plus grande discrétion, élu lundi soir. À l'unanimité du conseil, c'est Christian Borel qui siège désormais. Notez qu'à la suite de cette affaire, une cellule psychologique est ouverte à Montgardin depuis le 29 mars. Une nouvelle rencontre est prévue la semaine prochaine avec la psychologue, mais aussi l'inspectrice d'académie et les enseignants.
On reste dans les Hautes-Alpes où le déploiement des bracelets anti-rapprochement se poursuit.
C'est là l'outil dont est dotée la force judiciaire pour lutter contre les violences conjugales en augmentation face aux confinements successifs. Soit le juge des affaires familiales s'en saisit et prononce une ordonnance de protection, soit c'est le tribunal correctionnel qui transforme alors le bracelet de protection en véritable peine pénale. Une peine d'une durée maximale de 2 ans, renouvelable une fois et accompagnée le plus souvent d'un sursis probatoire avec interdiction d'entrer en contact avec la victime. Pouvant également être utilisé dans le cadre des contrôles judiciaires, ce bracelet anti-rapprochement doit devenir un véritable acteur de la lutte contre la récidive pour Florent Crouy, le procureur de la République de Gap.
Lorsque on arrive à identifier, interpeller et traduire devant une juridiction jugement un auteur de violence conjugale, la première chose qui nous occupe, c'est protéger la victime. Parce qu'on a échoué en réalité, lorsqu'il y a une victime, l'existence même d'une victime est un échec de la société. Donc pour prévenir un nouveau passage à l'acte, qui d'ailleurs peut être parfois beaucoup plus violent que le premier, il faut absolument mettre hors d'état de nuire l'auteur. Ça passe par la prison et ça passe aussi en accompagnement à la sortie de prison ou en alternative à l'emprisonnement, avec la mise en place de ce bracelet. Parce qu'avec ce bracelet, on est sûr que la victime est protégée, parce que si l'auteur rentre dans sa zone d'alerte, il sera interpellé et mis hors d'état de nuire.
Et en cas de non-respect des mesures d'éloignement, ce sont les forces de l'ordre qui interviennent grâce à un dispositif de géolocalisation en temps réel. Le commissaire Joël-Patrick Théry, directeur départemental de la Sécurité publique des Hautes-Alpes, insiste sur le déploiement de 2 forces policières.
Ça bip sur un de nos écrans qui nous indique quelles sont la localisation de la victime et du mis en cause. À partir de là, on a un appel de la société Alliance simultanément qui nous confirme effectivement qu'il y a une alerte qui est déclenchée à notre niveau en nous indiquant si c'est le périmètre immédiat et urgent ou le périmètre intermédiaire, on va dire. Et à partir de là, on dépêche deux équipes. La première équipe a comme objectif de sécuriser la victime. C'est d'ailleurs notre priorité. On contacte la victime, on a ses coordonnées, on lui demande de se mettre à l'abri et on va la prendre en compte physiquement. La seconde équipe a, elle, comme objectif d'interpeller le plus rapidement possible les mises en cause. Par la suite, nous, il y a un signalement, c'est une retenue, ensuite il y a un contact qui est pris avec le parquet, le mis en cause est auditionné pour savoir pour quelle raison il se trouvait là, on voit s'il y a eu un problème technique ou si au contraire c'est une violation encore une fois de la décision qui avait été prise, et dans ce cas-là, c'est au parquet ensuite de prendre la décision qui correspond aux mises en cause.
Ce bracelet anti-rapprochement rejoint ainsi l'arsenal déjà bien fourni pour combattre les violences intrafamiliales et conjugales, un arsenal dans lequel on peut retrouver des dispositifs locaux comme la maison des femmes pour un hébergement de mise à l'abri, une prise en charge du transport en taxi pour s'éloigner du domicile ou un accès facilité aux associations d'aide aux victimes comme Mediavic ou le CIDFF. En bref, habitant de Saint-Chaffré, un assistant social tiendra à bientôt une permanence. Ce professionnel de la Maison des Solidarités de Briançon assurera les rendez-vous dès le 7 mai en toute confidentialité, chaque premier vendredi du mois. Tout cela se passera en mairie. Retrouvez les informations sur alpevent.com.
C'est le dossier de la rédaction de ce mercredi. Alors que la crise au sein de l'hôpital de Gap promet d'embraser l'offre de soins sur une bonne partie des Alpes du Sud, retour ce matin sur les origines du conflit.
Avec une cascade de démissions et d'arrêts maladie de soignants sur le site de Gap, c'est aujourd'hui ceux de Sisteron et d'Embrun qui se voient touchés. Si le ministère de la Santé pourrait prochainement trancher dans cette affaire, cette question ce matin, comment le retour d'un praticien dans l'établissement hospitalier a-t-il pu faire basculer tout un hôpital, car c'est la réintégration en mars dernier du docteur Raouf Amami qui semble mettre en péril le service d'orthopédie, mais au-delà, tout l'hôpital avec la continuité des soins qui ne serait plus assurée. Nous nous sommes procuré le rapport de l'ARS datant de janvier 2019. Explication avec Christophe Laurenceau.
Il faut revenir à juin 2016. La direction du CHICAS fait appel à un cabinet de consultants. Il doit réaliser un audit de fonctionnement du bloc opératoire. La conclusion tombe. Le docteur Raouf Amami réalise deux fois moins d'interventions que la moyenne de ses collègues. S'il lui est demandé d'augmenter son activité pour conserver 10 plages opératoires, l'audit fait l'objet de vives discussions dans le service. Le docteur Gilles Norotte, mis en cause aujourd'hui dans le dossier de la cimentoplastie discale, aurait alors interpellé son confrère, le traitant de fainéant. L'ARS, dans son rapport de 2019, constate alors un véritable acharnement de la part d'Amami qui demande à plusieurs reprises à la commission d'activité libérale de vérifier l'activité de son collègue. Il demande par ailleurs une enquête pour mettre en évidence des fraudes. Son but, obtenir des sanctions. Les relations se détériorent, les menaces se multiplient de la part d'Amami, que ce soit auprès de la direction ou de ses collègues interrogés. Par les rapporteurs, le docteur Gilles Norotte témoigne de menaces de mort contre lui et sa famille qui lui font faire des cauchemars. Les propos du docteur Amami montent en virulence. « Je vais détruire ce service pour pouvoir le reconstruire », déclare-t-il de multiples fois lors des entretiens. L'agence régionale de santé est claire dans sa conclusion. Le praticien fait régner un climat de peur. Elle est convaincue que son retour au sein de l'établissement n'est pas possible compte tenu des menaces proférées et de l'état d'esprit dans lequel il demeure.
Et en 2018, c'est l'affaire Norotte, Christophe, qui éclate au grand jour.
Alors qu'il est mis à pied à titre conservatoire, le docteur Amami dénonce la pratique de cimentoplastie discale de Gilles Norotte, une méthode aujourd'hui sous le coup d'une procédure judiciaire car estimée non valide en France. Pourtant, le praticien en avait connaissance dès mai 2016 puisqu'il était chef de service orthopédie à ce moment-là. Ce serait une véritable chasse à l'homme qu'il aurait engagé pour obtenir des sanctions. Selon l'ARS, il aurait fouillé dans les dossiers médicaux de son confrère. 104 dossiers seront consultés à 8 reprises, y compris durant ses arrêts de travail.
Merci Christophe. Suspendu depuis, le docteur Raouf Amami a donc été réintégré dans ses fonctions depuis l'obtention du statut de lanceur d'alerte par le défenseur des droits. Contacté, il n'a pour l'heure pas donné suite à notre demande. Ce mercredi dans le 8.30, retrouvez l'interview des docteurs Jérôme Alger et Pierre-Yvan Simonoviès. Tous deux sont démissionnaires.
Et puis c'est l'heure de la douloureuse, Cyrielle, la déclaration pour les impôts sur le revenu, c'est maintenant.
Et dans les Alpes-de-Haute-Provence, on compte 101 000 foyers fiscaux, dont 49 000 imposables. Ils génèrent près de 140 millions d'euros d'impôts sur le revenu. S'agissant de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, ancien ISF, en 2019, on comptait 160 redevables pour le territoire basalpin pour près de 2 millions d'euros. Depuis plusieurs années, la déclaration en ligne a pris le pas sur le papier. Si 60 000 foyers basalpins sont éligibles à la déclaration automatique. Ils étaient 79% l'an dernier à l'avoir effectué en ligne. Internet, le meilleur outil actuellement face à la pandémie, à la nécessité de réduire les contacts. D'ailleurs, les finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence vous proposent un ami, un assistant de la messagerie des impôts. Comprenez un assistant virtuel pour vous aider. Isabelle Godard de Vaujany est la directrice départementale des finances publiques.
Il faut absolument, aussi bien pour la santé de nos concitoyens que de nos équipes, et il faut absolument éviter d'avoir des files d'attente, c'est agréable pour personne, et en contexte Covid, c'est même dangereux. L'assistant virtuel qui s'appelle effectivement AMI, assistant de messagerie des impôts, c'est une nouveauté cette année. Quand vous allez sur impôts.gouv, sur votre espace particulier, vous allez voir, il y a une petite icône bleue assez sympathique qui est un chatbot, c'est-à-dire un petit outil d'échange pour que vous puissiez poser votre question, qu'on vous réponde. Enfin, c'est un système très simple d'échange, certes virtuel, mais qui est basé sur un système de mots-clés. Et comme tous les chatbots dans d'autres structures ou organisations et administrations, ça permet d'avoir des réponses aux questions, en tout cas les plus simples.
Et sachez que vous pouvez aussi être plus téléphone qu'Internet. Et d'ailleurs, vous pouvez composer le 0829 401 401. Un agent des finances vous répondra. Autre changement cette année, Le Bon Coin ou Airbnb sont une manne financière intéressante pour vous. Eh bien, attention, ces revenus sont aussi à déclarer. Ce sont les revenus de l'économie collaborative. Ils sont fiscalisés à deux conditions. Si vous avez vendu ou loué pour plus de 3000 euros dans l'année et que plus de 20 transactions ont été effectuées.
La plateforme collaborative, elle vous informe, vous allez recevoir sur votre compte internet une information résumant tout ce que vous avez fait dans l'année 2020, et ces mêmes informations, on les recevra aussi. Donc, pas moyen de tricher, ce que vous recevez, nous le savons. Donc, si vous êtes au-delà de 3000 euros et plus de 20 transactions, si vous avez une activité d'économie collaborative très fréquente, quasi professionnelle, eh bien, dans ce cas-là, vous devez déclarer ses revenus. Ça, c'est quand même une nouveauté importante parce que dans notre département assez touristique, on a beaucoup de nos concitoyens qui font des locations meublées occasionnelles. Eh bien, sachez que si c'est vraiment assez fréquent et que ça génère plus de 3000 euros, il faut s'en préoccuper. Donc, vous allez sur Internet, impôts.gouv, et vous regardez, vous vous renseignez pour savoir si vous êtes imposable là-dessus.
Et c'est un dossier réalisé par Michel Bonnefoy. Vous avez jusqu'au 26 mai pour faire votre déclaration en ligne.
L'œuvre monumentale de l'artiste Ousmane Sow, Little Big Horn, accueillie à la place Fort de Mont-Dauphin dès le mois de juillet.
Et c'est à voir, il s'agit de 35 pièces sculptées selon une technique de l'artiste qui représente une dizaine de scènes de combat en référence à l'affrontement qui opposa les Indiens des Plaines à l'armée fédérale des États-Unis en 1876. Les œuvres seront prêtées pour une durée exceptionnelle de 10 ans. Elles seront installées dans la partie est du comble de la caserne Rochambeau sous la charpente à la Philibert Delorme qui date du 19e siècle. Notez enfin que dans le cadre du plan de relance, une enveloppe de 3,6 millions est allouée à l'achèvement de la restauration de cette caserne.
Alpes 1 Sport. Le sport avec Speedy qui fait son retour dans les rangs des rapaces de Cap.
Alors, il faut être un supporter de l'équipe de hockey alpine pour comprendre qu'il s'agit là de Sébastien Roa. Après 5 ans passés sous les couleurs des Brûleurs de Loups de Grenoble, il viendra occuper un double rôle, celui d'attaquant mais aussi d'assistant coach à Eric Blé, l'ancien champion de France en 2015 sous Luciano Basile. Fait donc son retour dans l'antre de l'Alpe Arena à 36 ans, une vraie opportunité pour lui d'occuper ces deux fonctions. Il se dit excité par le projet, l'état d'esprit du club. Sébastien Roa, en quelques chiffres, ce sont 18 années en Ligue Magnus, 3 titres de champion de Ligue Magnus, 3 en Coupe de France et une Coupe de la Ligue.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.